Je vais vous raconter l'histoire de Sainte Catherine de Sienne. Elle est née en 1346 et est décédée en 1380. Deux enfants se promenaient à travers Sienne un soir de l'année 1352. Une petite fille de 6 ans et un jeune garçon qui pouvait avoir 2 années de plus. Catherine, Bénigne Cassa et son frère Stefano regagnaient leur demeure de la Via d'Intantori, rentrant d'une visite à leur sœur mariée, Bonaventura, qui demeurait à l'autre bout de la ville, là-haut, près de la tour San Anzano. Et un soir de l'année 1912, moi, étranger, je chemine dans Sienne, recherchant autant que possible la trace de ces deux enfants, bien que 5 siècles se soient écoulés depuis lors. Car cette promenade à partir de la vieille tour où l'apôtre de Sienne, le martyr San Anzano, fut, dit-on, emprisonné jusqu'à Fontebranda, devint pour la petite Catherine, Bénigne Cassa, un événement qui décida de sa vie tout entière. Depuis son enfance jusqu'au jour où, âgée de 33 ans, elle succomba sous le fardeau du vaisseau de l'Église pesant sur ses épaules. Ainsi, je pense aux frères et à la sœur qui, la main dans la main, errent par les rues obscures. Peut-être ne se disent-ils rien l'un à l'autre, car le plus souvent, les enfants se promènent ensemble sans prononcer une seule parole. Mais ils pensent, et j'essaie de suivre leurs pensées. À peine savent-ils quelque chose de Duccio, le grand peintre dont ils dépassent la maison où pendant 3 ans il a travaillé au tableau qui allait orner le maître-autel de la cathédrale et qui, une fois terminé, fut porté en triomphe à travers la ville, tandis que toutes les cloches sonnaient à Gloria. Tout ce jour, dit la vieille chronique, on pria beaucoup dans les églises et on distribua nombre d'aumônes aux pauvres, afin qu'un Dieu et sa Sainte Mère nous défendissent de tout mal et préservassent Sienne de tout traître et de tous ennemis. Cependant, Catherine et Stefano n'avaient guère entendu parler de ce grand jour, passé depuis 80 ans. À leur foyer, dans la teinturerie de Fontebranda, il était peu question d'art et d'artistes. Par contre, la prison de San Anzano doit leur avoir produit une grande impression. Haute, sombre, lugubre, elle se dresse encore là-haut, dans Castelvecchio, le plus vieux quartier de Sienne. C'est là que se trouvait autrefois le prétorium romain. C'est là que San Anzano confessa la foi devant le gouverneur et fut torturé jusqu'à la mort. Tous les enfants de Sienne connaissaient son histoire. San Anzano vivait 1000 ans auparavant. En ce temps-là, l'empereur était païen et le pape ne résidait pas au Latran, mais dans les catacombes. Le père d'Anzano était idolâtre, mais sa mère était chrétienne. Il fut baptisé à l'âge de 12 ans et aussitôt après commença à prêcher la foi, d'abord à Rome, puis à Acquapendente et enfin à Sienne. Nul n'était chrétien à cette époque. Tout le peuple était païen. À l'endroit où s'élève actuellement la cathédrale se trouvait un temple dédié à Minerve. Au pied de la montagne sur laquelle on a bâti depuis l'hôpital de la Scala, dans la direction de Valle Piatta, s'étendaient les cavernes et les grottes dans lesquelles les teinturiers et les tanneurs avaient établi leurs ateliers. C'est dans l'une de ces grottes que San Anzano rassemblait les premiers chrétiens, célébrait la Sainte Messe et prêchait. De nos jours encore, au-dessous de l'hôpital, il y a quelques souterrains où la confrérie de la Vierge y tient ses assemblées. Ce fut la première église de Sienne. Mais en ce temps-là, Lysias était gouverneur romain et dès qu'il entendit parler de San Anzano, il le fait saisir et mettre en prison, car l'empereur avait ordonné d'exterminer tous les chrétiens. San Anzano fut donc condamné à être précipité dans une chaudière de poix bouillante. Les soldats exécutèrent cet ordre, mais il ressortit sain et sauf du pain brûlant. Le gouverneur, saisi d'une violente fureur, commanda de le décapiter assez loin de la ville, au bord du fleuve Arbia. Il n'avait que 20 ans. Cependant, les chrétiens vinrent secrètement pendant la nuit chercher son corps, qu'ils cachèrent soigneusement, et plus tard, quand tout le peuple se fut converti, les saintes reliques furent portées en grande cérémonie jusqu'à Sienne. La porte par laquelle passa le cortège s'appelle encore de nos jours Porta San Viene, le Saint vient. Et San Anzano fut proclamé patron de Sienne et protecteur de la cité. Quand de nos jours on se rend à la vieille tour, à la Via del Tintori ou Via Benincasa, comme elle s'appelle maintenant en l'honneur de Catherine, il faut prendre un chemin que l'on nomme Fossa di San Anzano. En dépit de ce nom, il n'a rien de sombre ni de funèbre. C'est au contraire l'une des plus jolies voies de Sienne. En passant au-dessous du grand hôpital de la Scala, on longe les murs élevés de ce gigantesque bâtiment, escarpé comme un rocher. Et l'on voit là-haut des sœurs de Saint-Vincent de Paul, dans leur habit bleu, avec de grandes cornettes blanches, s'arrêter un instant sur les balcons, dans l'ouverture des fenêtres et des portes irrégulièrement percées, avant de rentrer de nouveau dans les salles de malades. Il est vrai que la vue est digne d'être admirée. Derrière un bas parapet de maçonnerie, la Valle Pietà se creuse ainsi qu'une grande coupe verte remplie jusqu'au bord de vignes et d'oliviers, de figuiers aux grandes feuilles et de noyers au feuillage doré, de maïs vert luisant dans la terre rouge entre les troncs rugueux des oliviers. Au fond de la vallée, quelques maisons décolorées. Au-dessus d'elles, de fertiles coteaux dorés de blé mûr, vertes de jeunes maïs et argentés d'oliviers. Plus haut encore, de graves cyprès entourant un monastère se dessinent sur le fond bleu des hauteurs lointaines de Chianti. C'est ici, en face de cette perspective, que San Anzano fut plongé dans l'horrible bain de poix bouillante. Une plaque de marbre scellée dans le mur en fait foi. Le marbre et l'inscription latine n'étaient point là le soir où Catherine et Stefano y passèrent. Mais le souvenir y était bien. La tradition, la pensée qu'en ce lieu, un homme s'était laissé précipiter dans une chaudière brûlante plutôt que de renier Jésus. Combien ce Jésus doit-il être aimable pour que l'on supporte, pour l'amour de lui, un aussi effroyable supplice. Le chemin continue par la paisible Via di Valle Pietà en côtoyant les murs rouges du vieux couvent des Jésuites, San Sébastien. Ce monastère, assez ancien, est néanmoins postérieur à Catherine. Il fut construit en 1363 ou 1364 sur l'emplacement de l'une des portes de la ville, Porta San Anzano. Un patronage catholique s'y réunit actuellement. Par une porte entrouverte, on aperçoit un jardin avec des rangées de citronniers dans de grands pots de terre cuite rouge et une profusion de lauriers aux corolles de pourpre semblables à de sanglantes blessures. Ici, le chemin aboutit à Il Costone, un large escalier assez raide, aux marches de briques, et à l'endroit précis où l'on tourne une seconde fois pour atteindre Fontebranda, on découvre une vieille fresque encadrée dans la pierre, et sous la fresque, cette inscription, tandis que Sainte Catherine Benincasa, âgée de 6 ans seulement, rentrait chez elle avec son frère, le Christ lui apparut au-dessus de l'église des Dominicains, de l'autre côté de la vallée, sous l'apparence de son représentant terrestre, entouré des saints apôtres Pierre, Paul et Jean, et lui donna sa bénédiction. En regardant avec beaucoup d'attention, on peut encore distinguer deux figures sur la fresque. L'une agenouillée, les mains étendues, dans l'attitude de la prière, c'est Catherine. L'autre, un jeune garçon debout, c'est son frère Stéphano. Ici s'arrêta Catherine ce soir-là. Ici également je m'arrête. Le chemin descend plus loin vers la droite, le long d'un mur de jardin sur lequel débordent des feuilles de vigne et de figuier, et où de l'herbe et des fleurs jaunes croissent entre les pierres. Au-delà, dans la même direction, on entrevoit le coin de Sienne qui s'appela Contrada del Oca, avec ses vieux toits décolorés, ses volets verts dans des façades roses pâles, avec des greniers ouverts des teinturiers et des tanneurs où de grandes peaux jaunes et brunes sont suspendues pour le séchage. Au fond de la vallée se trouvent Fonte Branda et le lavoir public, d'où résonnent des cris, des rires et des coups de battoir. Le linge est étendu sur l'herbe pour sécher. En face s'élève la verdoyante colline de Campo Reggi, sur laquelle est campée l'église San Domenico, grande et nue, avec ses fenêtres ogivales percées dans le mur plat du chœur et sa tour massif qui surmontait au XIVe siècle une flèche élancée. Catherine s'arrêta ici, comme je m'y arrête aujourd'hui. Et ce qu'elle vit alors, l'inscription et la fresque en témoignent. La vieille légende raconte. Ayant levé les yeux, elle aperçut de l'autre côté de la vallée, au-dessus du chevet de l'église des frères prêcheurs, un trône magnifique, disposé avec une pompe royale. Et sur ce trône, Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, couronné de la tiare et revêtu des ornements pontificaux. Auprès de lui se trouvaient les princes des apôtres, Pierre et Paul, et Saint Jean l'évangéliste. À cette vue, Catherine s'arrêta, frappée d'étonnement, et contempla son Sauveur qui se manifestait si miraculeusement à elle pour lui prouver son amour. Alors, il abaissa son regard sur elle, lui sourit amoureusement, étendit sa main droite et traça le signe de la croix, comme fait l'évêque quand il donne sa bénédiction. Et si puissante fut cette bénédiction de l'Éternel, que ravie, hors d'elle-même, l'enfant qui par nature était timide, resta là sur la voie publique, les yeux levés vers le ciel, au milieu du va-et-vient des hommes et des animaux. Cependant, son frère continuait sa route, convaincu qu'elle le suivait. Lorsque tout à coup il s'aperçut qu'elle n'était plus à ses côtés, et se retournant, il vit sa sœur très loin en arrière, immobile, regardant le ciel. Il l'appela tout d'abord, mais comme elle semblait n'y prêter aucune attention, il revint sur ses pas, appelant toujours. Puis voyant que cela ne servait à rien, or, qui a entendu les enfants italiens crier de toute la force de leurs poumons comprendra qu'en vérité, l'esprit de Catherine était ailleurs. Il la saisit par le bras et lui demanda « Que fais-tu ici? Pourquoi ne viens-tu pas ?» Alors Catherine sembla s'éveiller d'un profond sommeil. Elle baissa les yeux un instant et répondit « Ah, si tu voyais ce que je vois, tu me troublerais pas ainsi. » Et de nouveau elle regarda en l'air, mais la vision avait disparu. Et la petite fille se mit à pleurer amèrement et à se reprocher de s'être laissée distraire. Les deux enfants reprirent ensemble le chemin du retour, plus silencieux encore qu'auparavant, comme nous avons le droit de le supposer. Par la Via Fonte Branda, des chars venaient lentement vers eux, attelés de quatre grands bœufs blancs qui barraient presque la rue de leurs cornes menaçantes. près de la fontaine où l'eau bouillonne constamment dans la profonde vasque, des femmes allaient et venaient sous la route sombre des arbres et remplissaient leurs cruches de cuivre. Un parfum de sarment et de pommes de pin brûlées émanait des cuisines, où les chaudrons étaient suspendus sur le feu pour le repas du soir. Des enfants jouaient avec de petits chats sur le seuil des portes. Tout était comme à l'ordinaire, comme c'est encore le soir en été dans ces rues. Mais pour Catherine, tout avait changé d'aspect, car le Très-Haut l'avait couverte de son ombre. L'Éternel avait parlé à son cœur d'enfant. Elle avait vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire, et il avait étendu la main et l'avait béni solennellement de trois grands signes de croix, comme l'évêque dans la cathédrale. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.